Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour la lecture de trois textes qui seront l'objet de la prédication de ce matin. Le premier dans Proverbes, au chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Matthieu 7, les versets 1 à 5. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc ? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever le bout de ta paille qui est dans ton œil, et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien ? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil, ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Texte suivant dans Philippiens, chapitre 4, les versets 2 à 9. Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et toi aussi qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont écrits dans le livre de la vie. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bon avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unies en Christ Jésus. En tout cas, frères et sœurs, voici ce que vous doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous.
Donc nous comptons sur son action ce matin. Nous avons commencé ensemble une série sur l'artisan de paix, et vous vous souvenez sûrement que la paix ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et j'avais particulièrement insisté sur la source, la motivation, l'origine, la force, même la récompense de cette recherche de paix qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jésus-Christ. Au travers de l'évangile, Dieu nous donne aussi bien le modèle que la motivation pour être des artisans de paix. Nous avions vu que dans la manière de vivre en tant qu'artisans de paix, que quatre étapes utiles nous étaient présentées par quatre E. Alors aujourd'hui, nous voyons la seconde action. Donc ça veut dire que nous avons déjà vu un premier réflexe. Quel était le premier réflexe de l'artisan de paix ? Ça commence par « eux », comme tous les autres. Exaltez Dieu. Peut-être vous vous souvenez. Exaltez Dieu, glorifiez Dieu. On peut dire « ébloui par sa grâce sans égale, nous avons de la joie à glorifier Dieu, à l'exalter. Et nous avons plus de joie à le glorifier qu'à poursuivre nos 20 buts égoïstes. » Et nous avions parlé d'un verset biblique qui nous avait accompagné tout du long. Peut-être l'avez-vous maintenant par cœur. 1 Corinthiens 10, 31, qui nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça nous aide à nous souvenir, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela, et nous sommes encouragés à le vivre dans chaque situation. Deuxième attitude, ou seconde action, comme je l'ai nommé, commence par « eux », on a parlé de de la poutre, je vais la mettre là, comme ça on va s'en souvenir, hein, donc, ou du tronc d'arbre, hein, j'ai pas de tronc d'arbre. Donc, enlever la poutre de son œil. Hein. Alors lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leurs péchés, donc quand on réalise ça, hein, que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leurs péchés, eh bien notre propre justice est balayée et nous admettons nos fautes, parce qu'on sait que Dieu nous pardonne. Et ça c'est pour aujourd'hui. Ensuite, le troisième E, déjà juste pour avoir un petit peu ces quatre dans la tête, hein, vous vous souvenez, c'était édifier dans la douceur. C'est-à-dire une fois qu'on cherche à vivre pour le Seigneur dans toute sa gloire, une fois qu'on cherche à enlever notre poutre, hein, on verra, eh bien parfois on doit aussi reprendre quelqu'un qui a fait une erreur. Donc comment le faire? Le troisième E, édifier dans la douceur. Hein. Donc quand nous acceptons que nous sommes au bénéfice de l'Évangile et de la manière dont Dieu nous fait bénéficier de l'Évangile, eh bien nous serons incités à corriger aussi, à restaurer dans la douceur ceux qui ont mal agi. On verra ça la prochaine fois. Et quatrièmement, eh bien nous avons quelque part le chemin final, l'apothéose qu'on pourrait dire, c'est emprunter le chemin de la réconciliation. Alors lorsque nous nous réjouissons du pardon libérateur de Dieu, nous parlerons beaucoup du pardon cette fois-là, eh bien nous serons aptes à pardonner aux autres de la même manière que Dieu nous pardonne. Vous verrez, c'est extraordinaire, mais le verset du jour qui va nous accompagner est tiré de Matthieu 7,5, vous l'avez devant les yeux, donc vous allez pouvoir vous le passer plusieurs fois dans la tête et le retenir. Donc Jésus qui dit à ses pharisiens, mais hypocrites, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors c'est vrai que Jésus utilise ici une image exagérée, hein, une poutre dans un œil, mais c'est pour attirer notre attention. Une personne qui a une poutre dans un œil, est-ce qu'elle peut voir quelque chose? Alors vous avez même eu l'illustration, une poutre dans un œil, en plus ça bouche les deux yeux, hein, ça c'est assez clair. Hein. Donc en fait, il serait totalement hypocrite de penser qu'on peut voir quelque chose, et quand on est aveugle, d'être capable d'enlever quelque chose dans l'œil de l'autre. D'accord. Essayez une fois. Bouchez les yeux, vous essayez d'enlever quelque chose dans l'œil de l'autre. Ça ne va pas bien aller. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est impossible, en fait. Alors, est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas enlever la paille de l'œil de son frère? Eh bien, si on lit le texte de Matthieu 7,5 attentivement, il est bien clair que non, ce n'est pas interdit. Ça peut même être salutaire. Mais elle est faite en prenant d'abord notre responsabilité concernant notre péché. Car la possibilité de résoudre notre péché est aussi grosse qu'une poutre. Il nous suffit de nous repentir. Alors que la possibilité de régler et d'aider en fait quelqu'un à régler son péché est beaucoup moins grande, comme un petit bout de paille, parce que c'est lui seul qui peut se repentir. On ne peut pas se repentir pour l'autre. Mais très souvent, lorsque nous ôtons notre poutre, les larmes, quelque part aussi de repentance, dans l'œil de l'autre, enlève sa paille. Comme la dernière fois, j'aimerais vous lire une histoire un peu plus conséquente pour illustrer cette seconde action de l'artisan de paix. La dernière fois, on avait parlé d'héritage, peut-être vous vous souvenez. Hein, aujourd'hui, ça sera dans un cadre ecclésial. Enfin, il avait eu sa chance. Serrant bien fort sa déclaration dans sa main, Marc s'assit au premier rang de l'église, prêt à en découdre avec les anciens. 6 mois auparavant, ils avaient refusé d'appuyer sa nomination comme pasteur principal. Ils sont restés là sans rien faire lorsque Marc s'est fait calomnier dans une assemblée générale. Le pire de tout, c'est que certains ont parlé derrière son dos, émettant des doutes quant à sa capacité de remplacer leur pasteur qui partait à la retraite. Après des mois de tensions, de plus en plus fortes, les anciens avaient finalement fait appel à une délégation de conciliateurs formée par Peacemaker. Pendant 2 visites, de 3 jours chacune, les conseillers ont enseigné à toute l'assemblée comment rechercher la paix. Ils ont suscité des discussions personnelles et encouragé Marc et les anciens à être des modèles pour l'Église en reconnaissant chacun ses torts dans le conflit. Mais Marc n'arrivait pas à changer sa manière de penser. Les péchés répétés des anciens étaient plus graves que ses quelques erreurs. Puis, quelques jours d'une deuxième série de week-ends pour l'Assemblée, les anciens étaient sur le point de confesser publiquement leur faute à l'Assemblée. La déclaration qu'ils avaient préparée n'allait pas aussi loin que ce que Marc et sa femme espéraient. Alors, ils planifièrent de démontrer publiquement les péchés des anciens à leur égard. Quand la réunion commença, l'un des médiateurs prêcha un sermon sur la réconciliation et expliqua le but et le déroulement prévu de cette réunion. Il donna ensuite la parole aux porte-paroles des anciens. Lisant une déclaration préparée d'avance, il confessa différents actes qui avaient fait du tort au pasteur Marc. Puis, il se tourna vers Marc et Donna, l'épouse de Marc, et dit « Nous avons péché contre vous et nous vous avons fait du tort. Nous vous demandons pardon, nous sommes vraiment désolés. » Il était évident, d'après les larmes qui coulaient sur son visage et de sa voix tremblante, qu'il parlait de tout son cœur. Puis, un autre ancien prit la parole, confessa ses propres péchés, demanda pardon au pasteur associé à l'assemblée. Un troisième ancien fit de même. Les conciliateurs avaient pensé que seuls deux ou trois anciens parleraient, mais sept des neuf ont ajouté leur confession personnelle à la déclaration qui avait déjà été faite. Marc était assis dans les rangs et il luttait avec ses pensées. Il était toujours en colère et blessé, mais les paroles des anciens avaient creusé une brèche dans le mur qu'il avait construit dans son cœur. Son épouse vit qu'il avait besoin d'un moment pour remettre ses idées en place. Alors elle se leva, s'approcha du micro. Se tournant vers les anciens, Donna dit « J'étais venu ce soir pour dire à tout le monde combien vous nous aviez blessés. Mais maintenant, Dieu m'a montré combien nous avions tort. J'ai finalement compris ce que le Seigneur voulait me dire dans 1 Jean 3,15. En m'accrochant à ma haine, je vous ai assassiné dans mon cœur pendant plusieurs mois. Je suis plus coupable que vous ne l'êtes. Je vous demande pardon. Je vous pardonne et je vous prie de me pardonner. » En revenant à sa place, on pouvait voir sur son visage la liberté qu'elle ressentait. Son amertume était balayée. Les pieds de Marc étaient comme mous quand il se leva et s'avança vers le micro. La bataille dans son cœur était arrivée à son apogée. Il pouvait s'accrocher à sa colère et prendre sa revanche, ou il pouvait avoir la liberté en pardonnant et en confessant ses propres fautes. Avec une grande émotion, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire les deux. « Aide-moi, Seigneur, » pria-t-il silencieusement alors qu'il s'approcha du micro. Soudain, ses mains s'ouvrirent, ses notes tombèrent à terre. Se tournant pour faire face aux anciens, il parla comme il n'avait jamais prévu de le faire ce soir-là. « Donna a tort. Je suis la personne la plus coupable dans tout cela. En tant que pasteur associé, j'aurais dû montrer un exemple d'humilité et de soumission. J'aurais dû avoir confiance en Dieu qui œuvre par les anciens de l'Église pour le choix du nouveau pasteur de cette Église. Mais au lieu de cela, j'ai laissé mon désir d'occuper cette place prendre le dessus. Et j'ai choisi de faire à ma manière. Je me suis élevé et me suis mis sur la défensive lorsque certains ont mis en doute mes capacités. J'étais en colère que des gens parlent derrière mon dos, mais j'ai fait exactement la même chose. Au lieu d'aller voir ceux qui avaient parlé contre moi, je les ai évités et je me suis enfermé dans l'amertume. Même quand certains m'ont demandé pardon, j'ai refusé de leur accorder. J'ai misérablement échoué dans mon rôle de pasteur. Et le pire, c'est que j'ai entraîné Donna dans mon amertume. Je demande que Dieu me pardonne et j'espère qu'il vous donnera la grâce de me pardonner. » Les anciens se sont levés d'un seul coup pour embrasser Marc. Ils sont aussi allés chercher Donna. Et après quelques instants, une autre voix se fit entendre derrière eux. Deux micros avaient été placés devant l'assemblée. Un homme âgé se leva devant eux, voulant aussi partager sa faute. Avant qu'il n'eût fini de parler, une femme se tenait déjà devant le micro, poussée par le Saint-Esprit de trouver la paix par la confession. Puis un autre, confessèrent leurs péchés, leurs calomnies, leur esprit de division et de dureté de leur cœur. Après 45 minutes de confession, un silence tomba sur l'assemblée. Un des médiateurs termina par la prière, et lorsqu'il eut fini, il sentit que Dieu n'avait encore pas terminé. Alors il suggéra que chacun se tourne vers son voisin qui confessait la foi en Jésus-Christ en disant Le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés. » Les gens se partagèrent cette bonne nouvelle, se prirent dans les bras et parlèrent si longtemps que les médiateurs durent s'en aller discrètement. Ils savaient que ces gens étaient entre de bonnes mains, les mains de Dieu. Voilà cette illustration un peu plus longue, mais qui illustre tellement bien cette notion d'ôter sa poutre. Quelle est notre motivation pour ôter notre poutre? Eh bien, c'est lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent, que plus rien ne nous retient d'avouer même les fautes que nous pensons être les plus minimes, parce que nous savons que Dieu est miséricordieux. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Si la mesure que vous utilisez pour juger vos actions, c'est de vous auto-justifier, comment pouvez-vous demander à votre offenseur de faire différemment? Si par votre jugement vous dites que l'autre a totalement tort, ou du moins plus que vous, pourquoi ne ferait-il pas de même? Ou pourquoi Dieu ne ferait-il pas de même avec nous? C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Notre motivation à ôter la poutre de notre œil ne vient pas de ce que nous pouvons gagner, mais vient de ce que nous avons reçu. Si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, dans la famille de Dieu, nous avons reçu des promesses tout simplement extraordinaires. Jésus a tout payé. Tout payé. Nous n'avons aucune crainte d'avouer notre péché à Dieu, car Jésus a déjà payé. Oh oui, nous sommes honteux en tant qu'enfants de Dieu, enfants du Saint des Saints, lorsque nous péchons, parce qu'on ne peut jamais prendre le péché à la légère. Jamais. Mais Christ a payé. Il a pris la condamnation qui pesait sur nous. Tout est totalement et entièrement payé. Et ma honte n'est pas un prix que je paye pour être pardonné. C'est uniquement une conséquence du péché lorsque nous nous trouvons devant le Dieu Saint. Notre motivation à enlever la poutre de notre œil vient de l'évangile de Jésus-Christ qui atteste que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Vous l'avez déjà souvent entendu, 1 Jean 1,9. C'est quand même intéressant de voir que dans ce texte, il n'est pas dit « Il est plein de grâce et de compassion pour nous pardonner ». L'argument du pardon est « Il est fidèle et juste ». Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé. Et Dieu est juste et il ne fait pas payer deux fois. Dieu est fidèle. Lorsqu'il nous a sauvés, comme dans Tite 3, 4 à 7, vous pouvez relire ce texte magnifique du salut en Jésus-Christ, il reste fidèle. C'est pour ça que nous avons une pleine assurance lorsque nous approchons de lui pour lui demander pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Nous allons donc vivre cette étape d'enlever la poutre de notre œil parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde, il fait grâce, il restaure, il renouvelle, il accorde à son pardon à celui qui confesse son péché. Si ce matin, vous ne connaissez pas ce pardon de Dieu, si vous ne le connaissez pas, venez à Dieu. Confessez vos péchés, repentez-vous, croyez en Jésus-Christ qui a payé la dette de celui qui se repent et croit. Et tout au long de cette prédication, il est important de se souvenir de notre motivation première. Nous connaissons l'évangile libérateur de Jésus-Christ. Nous vivons donc notre rôle d'artisan de paix dans l'assurance de la réconciliation de Dieu qui produit la réconciliation avec les autres. C'est pour ça que j'ose avouer mes fautes et demander pardon, même si l'autre peut-être n'est pas prêt à me pardonner. Parce que je sais que Dieu me pardonne. Nous avons aussi toujours dans l'objectif 2 Corinthiens 5, 18 à 19, qu'on a déjà lu, mais que je vais vous relire pour qu'on l'ait aussi bien dans nos têtes. Vous pouvez peut-être le lire, chercher dans vos Bibles, 2 Corinthiens 5, 18 et 19. où il est dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors, ayant cet objectif dans la tête, nous pouvons reprendre Matthieu 7, 5. Et nous aborderons notre premier point. Donc, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre de l'œil de ton frère. Alors, une première chose qu'on peut se demander, mais est-ce que ça vaut la peine de se battre pour ça, dans une situation qui peut devenir conflictuelle ou qui l'est? Alors, vous savez, chaque conflit demande de l'énergie, parfois beaucoup, très beaucoup d'énergie. Et la Bible recommande hautement un processus libérateur. C'est celui de passer sur une offense. Alors, de multiples textes soulignent, j'en ai une douzaine ici, mais nous en verrons trois ce matin. Trois textes nous encouragent à passer sur une offense. Le premier, cherchez avec moi dans Proverbes, Proverbes 19, au verset 11, où il est dit « L'homme qui a du discernement est lent à la colère, et il met son honneur à passer sur une offense. » Deuxième texte, 1 Pierre 4:8. 1 Pierre 4:8 que je vous lis. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Troisième texte, dans Colossiens 3:13, où il est dit supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, entendu, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Ainsi, nous faisons grâce à celui qui nous a offensés sans même devoir lui parler. Alors attention, ça signifie que nous lui avons vraiment pardonné. C'est pas simplement je mets ça de côté, puis je le ressortirai quand je voudrai le mettre au visage de l'autre. C'est pas ça, passer sur une offense. Passer sur une offense, c'est vivre dans cette attitude de plein pardon, comme Dieu le fait envers nous, pour tant d'offenses. Et nous verrons donc ce que signifie vraiment pardonner lors de la dernière prédication de cette série, Dieu voulant, le 18 août. Mais pouvons-nous simplement pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal sans rien dire? Il y a quand même quelques conditions qui vont nous arrêter et nous dire « Attends, là c'est important de ne pas passer sur l'offense. » Je vais vous donner quelques éléments qui vont nous aider à prendre cette décision. Alors, quelques conditions pour ne pas passer sur une offense. Une première chose, c'est que l'offense a créé un mur entre moi et l'autre personne. La relation a changé. J'arrive plus à avoir la même relation avec l'autre personne. Si je passe sur l'offense, c'est-à-dire si j'essaye d'oublier, etc., ça ne va pas régler la situation. Donc, premier élément, si l'offense a créé un mur. Deuxièmement, l'offense te fait changer de sentiment envers l'autre de façon prolongée. Ça ne passe pas après quelques heures ou un ou deux jours. Des fois, on est peut-être un peu, quelqu'un nous a dit quelque chose en passant. Il ne s'est peut-être même pas rendu compte, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et puis, ça nous a touchés. Mais quelque part, on lui a pardonné, puis après un ou deux jours, c'est réglé. Donc ça, il n'y a pas besoin de revenir. Par contre, si ça continue dans notre cœur, encore ça revient, c'est que c'est important de régler. Troisième élément, c'est l'offense cause de sérieuses blessures à l'offenseur lui-même. Là, on ne va pas laisser passer. Ou encore, l'offense inflige de sérieux torts à des victimes. Si des gens sont victimes et il y a des sérieux torts, il ne faut pas simplement passer par-dessus l'offense, il faut aller régler la chose, bien entendu. Et cinquièmement, si l'offense produit de sérieux dommages à la réputation de Dieu. Quelqu'un qui témoigne être chrétien et qui fait de la fraude continuellement, on ne peut pas le laisser faire. Alors si l'une de ces conditions est présente, il ne s'agit pas de passer sur l'offense, mais d'aller édifier dans la douceur. On verra ça la prochaine fois, comment le faire. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais on le verra. Vivre la discipline dans l'amour et dans le pardon, dans le but de la réconciliation, dans le but d'une restauration. Mais avant de passer trop rapidement à la décision de ne pas passer sur une offense, rappelons-nous combien d'offenses a passé par-dessus pour nous. Combien Dieu a passé par-dessus d'offenses pour nous. Il est d'ailleurs notre exemple pour passer par-dessus les fautes. Dans Luc 6, 36, il est dit « Soyez miséricordieux, écoutez bien, comme votre Père est miséricordieux. » Est-ce qu'il vous a rappelé toutes vos fautes ? « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu ? Ah, ouvrez avec moi vos Bibles. C'est intéressant d'aller lire ce texte dans le psaume 103. Comme ça, si parfois vous avez la peine à saisir qu'est-ce que c'est que cette miséricorde, eh bien, allez dans le psaume 103. Psaume 103, versets 8 à 10. « L'Éternel est compatissant et il fait grâce. » Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Voilà la miséricorde de Dieu. Donc, cela vaut-il la peine de se battre ? Un autre élément. Après avoir réfléchi à cette attitude hautement recommandée dans la Bible de passer sur l'offense, réfléchissons un tout petit peu au prix du conflit. Un conflit peut voler du temps, peut voler des biens, peut endommager des relations très profondément, peut voler votre réputation, peut voler des opportunités de service. Un conflit peut totalement détruire votre témoignage. Il est donc important de réfléchir à comment gérer les conflits et savoir s'il faut vraiment s'arrêter et s'entêter dans une prise de position. Voici une petite illustration. Toujours des illustrations de choses réelles. Hein. Donc, quatre personnes avaient un capital dans une affaire à liquider. Et l'un d'eux voulait beaucoup plus que ce qui était offert par les autres. Ils n'étaient pas chrétiens, au contraire des autres. Les trois autres refusaient de céder. Et un conseiller les a rencontrés, il leur a demandé, mais pourquoi ils ne voulaient pas céder ? Puis en fait, ils ont répondu, mais ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est une question de principe. Ils ont dit, ok. Et combien vous coûte ce principe ? Combien de temps cela vous a-t-il déjà éloigné de vos affaires ? Ou combien de temps un procès, parce qu'il y avait l'idée d'aller en procès, va-t-il vous coûter ? Plus encore, quels sont les effets de ce conflit sur vous personnellement et sur vos familles ? Il y a un long silence et puis l'un d'eux prend une petite calculatrice et répond « On a déjà dépensé 5000 francs de notre temps juste pour ça. » Et un procès nous coûterait 10 fois plus. Un autre admet qu'il n'avait pas bien dormi à cause de ces tensions générées par ce conflit et confessait même que son attitude critique avait conduit à des problèmes avec sa femme et ses enfants. Et le troisième acquiesça. Lorsqu'en fait ils ont compris le coût réel de leur dispute au coût pour régler le conflit, ils ont cherché à régler le conflit le plus vite possible, même si ça fut difficile. Et seulement 2 semaines après, l'un d'entre eux revint vers le conseiller et lui dit que tous les problèmes liés à cette affaire étaient résolus. Il dit, mais quand je regarde en arrière, je ne comprends pas pourquoi on a mis si long à fixer ce problème. Cela ne valait vraiment pas le coup de se battre pour cela. Et vous savez, tous les conflits irrésolus ont un coût. Et si vous êtes maintenant dans un conflit irrésolu qui dure et que vous ne voulez rien lâcher de votre droit, aviez-vous calculé la dépense ? Dans le prochain point, nous allons débusquer les causeurs de conflits et les mettre en lumière pour les éliminer dans notre vie. Ce point s'intitule « Les conflits commencent dans le cœur ». Afin d'enlever la poutre de notre œil, il faut commencer par savoir d'où vient cette poutre. D'où vient-elle cette poutre ? Le texte de Matthieu 5, 19 qui dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses est appliqué dans l'épître de Jacques aux passions non satisfaites de nos cœurs. Lorsque nous voulons en fait quelque chose et que nous sentons que nous ne serons pas satisfaits tant que nous ne l'aurons pas obtenu, ce désir commence à nous contrôler. Et si je ne l'ai pas, je ne serai pas heureux. Et si les autres ne comblent pas nos attentes, eh bien on va les condamner dans notre cœur et nous lutterons encore plus fort pour atteindre ce que nous voulons. Ce désir a remplacé Dieu. Ce n'est plus le désir de plaire à Dieu qui domine, mais la poursuite d'un désir personnel. Vous savez comment on appelle ça ? Une idole. Une idole. Alors, regardons ensemble comment une idole se fabrique. Comment est-ce qu'une idole se fabrique ? Eh bien, voici les 4 étapes de processus de fabrication d'une idole. Alors, je vous les donne, les 4 à la suite, mais ensuite, on va y revenir avec un exemple tout à fait concret. Premièrement, je désire. C'est le début. On verra, le désir n'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est le début du processus de fabrication d'une idole. Ensuite, j'exige. Donc le désir devient une exigence. L'exigence peut parfois être juste. On n'est encore pas dans une situation d'idole, mais ça, c'est dans le processus. Ensuite, si je ne le reçois pas, je juge. Là, on commence à être dans une situation qui n'est plus tout à fait correcte. Je juge. Et si, donc le processus continue, je punis. Donc je désire, j'exige, je juge et je punis. Voici les quatre étapes de fabrication d'une idole. Et c'est vrai, il y a de ça ou deux mois, Dieu m'a permis de reconnaître ces étapes dans ma vie. Et je vais vous expliquer ces quatre étapes. Alors, j'ai un désir, c'est de jamais jeter de nourriture. Ça, c'est un bon désir, on est d'accord. Et ce désir n'est pas mauvais, on est d'accord. Mais je me suis rendu compte que ce désir était beaucoup plus fort qu'un simple souhait et une façon de vivre. C'était une exigence. Je l'ai découvert, en fait, lorsque j'ai dû jeter un petit cornet qu'on avait reçu, car la nourriture était avariée. Marlise ne savait pas qu'on ne pouvait pas le conserver hors du frigo. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était plus qu'un désir, que c'était une exigence. Et bon, ce n'est pas encore mauvais l'exigence, mais le problème, c'est que je n'en suis pas resté là. J'ai jugé ma femme, à ma honte. Et je dois dire que je l'ai critiquée, je l'ai même condamnée. Et dans mon jugement, je l'ai punie en lui disant des paroles blessantes. Vous savez, les idoles demandent toujours des sacrifices. Et là, j'ai donné les douleurs de ma femme et j'ai utilisé l'épée de ma langue pour offrir ce sacrifice. Vu comme ça, l'idole est toujours terrible. Ah, j'aurais pu dire, oh, c'est pas bien grave. Non, c'est terrible. C'est une idole. Et je suis reconnaissant que Dieu me l'a montré afin que nous puissions en couple emprunter le chemin de la réconciliation. Le Seigneur m'a fait la grâce d'enlever la poutre et de demander pardon à mon épouse. Et même si cette idole paraît petite, elle nous a pris du temps, de l'énergie. Alors pensez donc, si une idole vous consume des jours et des semaines, des mois ou des années, une idole, c'est ce dont nous dépendons en dehors de Dieu pour être heureux, épanouis et rassurés. C'est quelque chose que nous aimons et poursuivons plus que Dieu, même pour un instant. C'était le cas pour moi, à ce moment-là, pour la nourriture à ne pas jeter, qui était quelque part manifestée par l'orgueil de celui qui ne veut pas être celui qui jette la nourriture. Pour un instant, je dépendais plus de cela que de Dieu pour être heureux, épanouis et rassurés. Vous savez, une punition qui est souvent utilisée, c'est l'envoi subtil et désagréable pendant de longues périodes de petits signaux à la personne qu'on veut punir. Alors si vous vous rendez compte maintenant que vous êtes en train de punir, c'est le moment de débusquer l'idole dans votre cœur. C'est le moment de réfléchir, mais quelle est cette idole pour que vous puissiez ôter la poutre qui est dans votre œil. On commence à mieux comprendre ce texte. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et bien sûr, remplacer l'idole par l'adoration du vrai Dieu. Remplaçons cette poutre par l'adoration du vrai Dieu. Quelqu'un disait que le péché est ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas vraiment satisfait en Dieu. Dès qu'on détourne de Dieu, eh bien, on entre dans l'idolâtrie. Alors, malheureusement pas prendre le temps maintenant pour développer toute cette partie importante. C'est pourquoi je vous encourage à réfléchir sur votre vie avec Dieu. Quelques questions. Vous repentez-vous régulièrement devant Dieu? Est-ce que vous repentez régulièrement? Et craignez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu? L'Éternel est-il vos délices? Afin d'ôter la poutre de notre œil, nous allons voir maintenant un dernier point très important. C'est la confession qui libère. Un point vraiment important. Il est écrit dans Proverbe 28, 13, on l'a lu tout à l'heure. Donc vous avez encore un petit peu, ça résonne encore un petit peu dans nos têtes. Où il était écrit, celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Texte merveilleux. La repentance, c'est plus qu'une émotion. Elle implique un changement de cœur qui n'est possible que si nous comprenons le péché qui est une offense personnelle face à Dieu. Plusieurs textes dans 2 Chroniques 6, psaume 51 et d'autres textes l'expriment très clairement. Alors, examinons et s'il vous plaît, mais je dis à moi aussi, hein, s'il nous plaît, ne vivons pas la règle 40-60. Vous connaissez la règle 40-60 ? Bon, je vais vous l'expliquer. La règle 40-60, c'est dire, ok, je reconnais que j'ai une part de responsabilité dans le problème. Je dirais que j'ai 40% de responsabilité, puis l'autre, il en a 60. Alors bon, comme il a 20% de plus que moi, ben, c'est quand même à lui de faire le premier pas. C'est ça la règle 40-60. Eh bien, il est fondamental de demander à Dieu de montrer clairement notre péché et réfléchir à notre vie. On a dit tout à l'heure, c'est notre poutre qu'on peut enlever. Et là, de nouveau, quelques questions pour nous aider à nous examiner, parce que parfois on se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Bon, moi, quelques questions qui peuvent nous aider. Par exemple, est-ce que ma langue est une arme? Est-ce que je l'ai utilisée dans cette situation comme une arme? Est-ce que je cherche à contrôler les autres? Je dis, attends, mais je ne vois pas. Bon, alors, des fois, on ne voit pas. Donc, on peut dire, attends, je vais demander à quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est capable de me dire si je manipule ou pas. Je lui dis, viens, tu peux me dire là, est-ce que je manipule? Est-ce que je tiens parole? C'est tout des signes qui nous montrent si on est dans une situation, justement, où on joue cette règle, hein, 40-60. Hein. C'est moi, oh, d'accord. On dit toujours, bien sûr, personne, tout le monde pêche. Oui, mais... Ou bien, est-ce que je respecte l'autorité? Est-ce que je vis la règle d'or de Matthieu 7-12? Matthieu 7-12, connaissez les ados, Matthieu 7-12. Ils connaissent, mais ils sont un peu timides. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est ça, Matthieu 7-12. Est-ce que je sers de mauvais désirs? Voilà, quelques questions. Hein. Je m'arrête là avec les questions, mais vous voyez, quelques questions qui peuvent nous aider. On a besoin d'être aidés parfois. C'est clair. Parce que le péché, enfin, le Satan, il aime bien que le péché soit caché, qu'on ne le voie pas. C'est ça son rôle. Et demandons à Dieu qu'il nous ouvre les yeux sur le péché. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, en même temps qu'il ouvre les yeux sur nos péchés, il nous offre un chemin de libération. Jamais il nous ouvre les yeux sur un péché pour nous faire du mal. C'est pour nous en libérer. Et malheureusement, beaucoup n'ont jamais vraiment expérimenté cette liberté parce qu'ils n'ont jamais appris à confesser leurs fautes avec sincérité et sans condition. Au lieu de ça, ils utilisent des phrases telles que, peut-être que vous les avez déjà utilisées, malheureusement je les ai utilisées, « Je suis désolé si je t'ai blessé. » Ça, ce n'est pas de la confession, on verra pourquoi. Ou bien « Oublions le passé. » Ce n'est pas de la confession, ça. Ou bien « Je pense que j'aurais pu faire mieux. » Ou « Je pense que ce n'est pas seulement de ta faute. » Mais ce n'est pas de la confession. Ce genre de phrases n'attire pas le pardon et la réconciliation. Si nous voulons vraiment faire la paix, demandons à Dieu la grâce de confesser avec sincérité, humilité, nos fautes. Et voilà une manière de faire qu'on appelle les 7 A de la confession qui libère. Simplement un outil hein, qu'on peut utiliser, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est un outil hein, qui peut être très utile. Un outil qu'on n'est pas appelé à vivre de manière mécanique, sinon on est totalement à côté. Hein. Mais un outil. Donc 7 A. On commence toujours par un A. On est un peu dans les lettres, hein, ces temps, mais... Donc, tout commence par... La première chose, aller vers chaque personne impliquée. Lorsqu'on confesse une faute, aller vers chaque personne impliquée. Alors, bien entendu, tout péché offense d'abord Dieu. Il faut donc lui confesser notre péché. Un péché, c'est vrai, de cœur, n'affecte pas directement les autres, qui n'affecte pas directement les autres, est confessé à Dieu. On ne va pas dire à tous ceux qui sont autour de nous chaque pensée qu'on a eue sur ces personnes, ils ne le savent pas. Par contre, dès qu'un péché a un lien avec une autre personne, il faut aller vers chaque personne impliquée. Donc, aller vers chaque personne impliquée. Deuxième A, abandonner les « si, mais, peut-être ». Alors, la confession la plus courante, c'est « Oh, je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. » Je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé. Est-ce que c'est une confession? En fait, le mot « si » annule la confession. Car vous ne savez pas si vous avez fait du mal. Si, je ne sais pas moi. En fait, le message qu'on donne, hein, je suis désolé si j'ai fait quelque chose qui t'a énervé, je vais vous dire le message qui est donné. C'est, il est clair que tu es énervé pour quelque chose. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, mais pour que tu arrêtes de me casser les pieds, je t'offre mon pardon. Ma demande de pardon. Hein. En plus, parce que je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait de mal, eh bien, je ne pourrais pas l'améliorer. Ainsi, ne t'attends pas à ce que je change. C'est seulement une question de temps avant que je refasse la même chose. Hein. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose de mal. pas de la confession. Abandonner les si. Ça, faut abandonner. Dans la confession, les si. Les mais, c'est pas mieux. Les mais, c'est un petit mot qui a une capacité étonnante. Très étonnant, ce petit mot. Vous savez que ce petit mot a la capacité de faire oublier ce qui a été dit précédemment. Hein? Alors, je suis désolé de t'avoir froissé dans tes émotions, mais tu m'as énervé. Ah, bien, je sais que j'ai eu tort, mais toi aussi. Une confession avec un mais ne conduit que rarement à une réconciliation véritable. Et s'il y a quelque chose à dire à l'autre personne, c'est la prochaine étape, hein, que nous verrons la fois suivante. Il est aussi juste de parler des fautes des autres. Mais quand on confesse notre péché, il ne faut pas parler des fautes des autres. C'est nous qui confessons nos fautes et qu'on cherche le pardon. Il y a encore d'autres mots. Hein. Le mot peut-être, a-t-il une confession, le mot il me semble. Hein. Il me semble que j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Si je vous dis ça, vous dites, il a compris qu'il m'a fait du mal ? Il n'a rien compris. Hein? Non, abandonnons les si, les mais, peut-être, et disons, j'ai eu tort lorsque j'ai dit ces choses sur toi. Et je te demande pardon. Ok, j'ai pris un peu de temps, les autres sont un peu plus courts. Hein, donc, aller vers chaque personne impliquée, abandonner les si, les mais, peut-être. Troisième A, avouer spécifiquement vos fautes. Être précis permet de savoir que vous devez changer dans votre comportement. Un exemple, mes commentaires critiques ne t'ont pas seulement blessé, ils ont offensé Dieu. J'ai désobéi à son commandement de ne pas mépriser les autres. J'utiliserai vos mots, ça m'est égal les mots, mais la notion est là. Et pas, oh je suis maladroit, excuse-moi. Oui, c'est très différent, spécifiquement. Avouez spécifiquement vos fautes. Ensuite, admettez la blessure infligée. Je comprends que tu as été blessé lorsque je ne suis pas venu à l'heure. Je suis désolé de ne pas avoir tenu parole. Il est important de reconnaître qu'on a fait mal à l'autre. Parce que si on ne reconnaît pas qu'on a fait mal à l'autre, bon, on va recommencer, quelque part. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on fait mal à l'autre, enfin, je pense qu'on est un peu tous la même chose, on n'a pas envie de faire mal aux autres. Donc quand on se rend compte que si on pêche, on fait mal à l'autre, ben, mais si on confesse sans avoir cette notion. Non. Admettez la blessure infligée. Ensuite, acceptez les conséquences. Hein, si des biens ont été endommagés ou volés, il faut les restituer. C'est d'ailleurs ce qui a rendu la confession de Zachée crédible dans le Nouveau Testament. Il a restitué. Sinon, c'était quoi sa confession ? Non, il a restitué. Ou si le péché était des ragots, par exemple, ben, il faut contacter toutes les personnes impliquées et leur dire que c'était des mensonges. Waouh, c'est du travail, hein ? Mais ça fait partie de la confession. Sinon, ce n'est pas de la confession, le ragot, il continue. Hein ? Donc, acceptez les conséquences. Ensuite, sixièmement, améliorez votre comportement. Donc, expliquez ce que vous allez faire pour ne plus le faire. Ou demandez des conseils aux personnes impliquées et mettre tout de suite les bons conseils en pratique. Par exemple, j'arrive en retard, ça blesse ma femme. C'est un cas qui malheureusement m'arrive. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, je mets des alarmes. Ça m'aide à être à l'heure. Ben voilà. Mais c'est important de mettre en place aussi. Et septième élément, appeler au pardon, bien entendu. Quand on confesse son péché, on appelle au pardon et laisser le temps. Demandez à la personne de vous pardonner. « Veux-tu me pardonner, s'il te plaît ?» Et c'est vrai, lui laisser le temps de répondre. Parce que c'est possible qu'elle ne peut pas le faire tout de suite. Ce n'est pas toujours si simple. Il ne faut pas mettre de pression. Dire, tu dois me pardonner, t'es chrétien. Attends. C'est qui confesse là ? On demande pardon. On laisse à la personne le temps. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez prier, demander à Dieu qu'il vous montre aussi, peut-être s'il y a quelque chose que vous avez oublié, peut-être quelque chose qui bloque, parce que quelque chose que vous avez aussi fait encore de mal, et que vous puissiez aussi le redire. Et si la personne persiste et ne veut pas pardonner, sachez que Dieu vous a pardonné et que vous êtes appelé à prier pour que cette personne puisse sortir de la prison du non-pardon. Nous en parlerons lorsque nous parlerons de la réconciliation. Alors rappelons-nous ces 7 A pour vivre une confession qui libère. Premier, aller vers les personnes concernées. Abandonner les si, mais peut-être. Avouer spécifiquement vos fautes. Admettez la blessure infligée. Acceptez les conséquences. Améliorez votre comportement. Appeler au pardon. Vous les avez sur les feuilles, hein, on ne peut pas tout retenir d'un coup comme ça. Mais ça, vous avez reçu, vous pouvez les relire, les reprendre et les travailler. Et en conclusion, en courte conclusion, j'aimerais lire l'engagement de l'artisan de paix concernant ce deuxième E qui est d'enlever la poutre de son œil, qui dit ceci. Au lieu d'attaquer les autres ou de s'arrêter sur leur tort, nous assumerons la responsabilité pour notre propre contribution au conflit. En confessant nos péchés et en demandant à Dieu de nous aider à changer toute attitude ou habitude qui mène au conflit et cherchant à réparer tout tort que nous avons causé. Ceci parce que nous réalisons que Dieu fait miséricorde à celui qui se repent. Vous avez cette partie d'engagement aussi sur vos feuilles que vous pourrez reprendre et relire. Et j'aimerais terminer par la prière. Ô Père, ce matin, nous ne pouvons que venir humblement devant toi et avouer notre péché. Combien souvent, Seigneur, nous sommes prompts à voir le péché des autres. Combien souvent, Seigneur, il est tellement clair que l'autre a fauté. Ô Seigneur, permets que cette promptitude soit aussi, voire plus rapide dans nos vies, nous concernant. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans ce cheminement que tu as donné dans ta parole, d'ôter la poutre de son œil, qui nous rend totalement aveugles pour aider d'autres. Que nous puissions, Seigneur, entrer dans ce chemin de la repentance. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné cela. Tu ne nous as pas laissé avec notre péché nous débattre et ne pas savoir comment nous en sortir. Tu nous as indiqué un chemin qui conduit à la croix, un chemin qui conduit au lieu où tu as tout accompli, afin que nous puissions être libérés. Ô Seigneur, je te prie que chacun emprunte ce chemin. Que chacun ici, Seigneur, comprenne l'importance d'entendre et d'écouter, d'appliquer, Seigneur, ce que tu nous dis dans ta parole. Qu'il n'y ait personne ici qu'il soit traité, comme la parole de Dieu nous dit, de fou, qui entend un message extraordinaire, qui entend un message qui libère et qui s'en détourne et qui se dit qu'il n'en a pas besoin. Seigneur, je te supplie de toucher nos cœurs, de nous transformer, et que pour ceux ici qui ont déjà fait un cheminement avec toi, que tous, Seigneur, nous soyons stimulés à vivre cela chaque jour, parce que nous réalisons ta miséricorde, ta compassion, ta bienveillance. Ô Père, je te prie pour ceux qui sont enlisés dans des conflits depuis des années, qui désirent en sortir, qui ne savent pas comment. Ô Seigneur, je te prie de les aider à découvrir quelles sont ces idoles, ces poutres qui les arrêtent. Que Seigneur, tu puisses encore œuvrer d'une manière tellement puissante que ce témoignage montre que l'Évangile libère encore aujourd'hui et que beaucoup, même dans cette région, puissent être touchés par ce puissant témoignage. Seigneur, c'est extraordinaire. Tu es celui qui nous a réconciliés. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Une œuvre totalement impossible pour nous. Comme l'est souvent dans nos cœurs, cette œuvre d'être réconcilié avec d'autres, on pense que c'est impossible. Mais à toi, rien n'est impossible. Et c'est dans cette confiance que nous venons devant toi en demandant la force et la grâce de marcher de l'avant, en étant, Seigneur, humilié de voir nos échecs, mais dans la joie de voir ton œuvre libératrice. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.